Tourner pour vivre, film sur Claude Lelouch, est aussi euphorisant qu'un film de Claude Lelouch. Il y est question de quête, de création, d'absolu, d'amour et de temps qui passe. Tourner pour vivre sort en salle mercredi et je reçois Claude Lelouch et Philippe Azoulay, son réalisateur. Alors cher Claude Lelouch, on sait tous bien sûr que enfant, les salles de cinéma vous ont sauvé la vie en vous permettant pendant la guerre d'échapper aux rafles de la Gestapo. Mais ce que le public ignore, sans doute, peut-être en tout cas, c'est à quel point le scénario de votre enfance est sidérant. Après la débâcle de 40, votre père avait compris, avant beaucoup d'autres, que les Juifs en France seraient persécutés. Donc, en 41, il a emmené sa famille à l'abri à Alger. Or, tout a basculé quand votre maman a désobéi à votre père sous prétexte d'aller voir sa sœur qui allait accoucher à Nice. Votre père était furieux de savoir qu'elle allait prendre le bateau, il lui a interdit... Elle vous a embarqué, elle a fait une petite valise, elle a traversé la Méditerranée et là...
Catastrophe. Les Américains débarquent en Afrique du Nord et je suis séparé de mon père. Je suis séparé de mon père et on était partis pour 24 heures avec un change, quelques sous pour ma mère.
Vous étiez partis pour 24 heures?
Oui, parce qu'on était partis pour aller assister à l'accouchement de la sœur de ma mère. Et elle se retrouve comme ça et d'un seul coup, on lui apprend que... On ne peut plus retourner en Algérie.
Voilà, plus aucune liaison, plus aucun bateau.
Plus rien du tout.
Et elle n'a plus un sou.
Voilà, et elle n'a plus un sou.
Alors, et c'est la guerre.
Et c'est la guerre.
Et il faut se cacher.
Et comme elle est un peu naïve, elle va dépenser et essayer de gagner un peu d'argent au casino de Monte-Carlo.
Alors,
j'oserais
ça,
même
c'est...
pas mettre ça dans un
non,
film.
Non, mais ça c'est incroyable.
Voilà.
C'est-à-dire qu'elle va, le peu d'argent qui lui reste, elle va tout mettre sur la roulette
au casino. Oui, parce que...
En faisant des prières.
Avec ce qu'on a, on a de quoi tenir 3 jours, et elle dit, on va rester ici très longtemps, il faut que j'ai un peu plus d'argent. Donc naïvement, elle va au casino de Monte-Carlo, et évidemment, elle perd tout. Elle perd tout, elle sort en larmes, et là, encore une fois, le hasard a du talent. Enfin, du talent. Je dirais même, il peut être cruel aussi, et elle tombe sur un ami... Un cousin éloigné, très éloigné, qui voit ma mère en larmes. Elle lui explique ce qui se passe et il lui dit « Écoute, moi j'ai des relations, j'ai un ami, un très bon ami à Paris, qui peut-être te trouver le moyen, en passant par le Portugal, de rejoindre l'Algérie. Va le voir de ma part, il s'appelle Mazoui, il est rue Lauriston à Paris. »
Rue Lauriston, mon Dieu.
Voilà. Et nous, on ne savait pas ce que c'était que la rue Lauriston à l'époque. Et évidemment, on remonte sur Paris avec ma mère, on prend un train de nuit. Le lendemain, elle est rue Lauriston et elle va voir ce fameux Mazoui. Il s'appelle Mazoui, c'est un Belge. Et c'est un des grands patrons de la Gestapo.
Mais alors, ça aussi, vous n'auriez pas osé le mettre dans un film.
Mais j'oserais pas.
Mais alors, ce cousin éloigné savait que le fameux Mazoui était un des grands chefs de la Gestapo ou il l'ignorait?
Non, on ne savait pas encore. On l'a su après la guerre. Donc, elle va voir cet homme en espérant que c'est un ami de notre ami et qu'il va nous rendre service.
Et là, que lui dit-il?
Et là, donc, ma mère, notre ami lui avait dit, tu lui racontes tout, tu lui dis tout, il va trouver une solution.
Donc,
elle raconte
elle
qu'elle
lui
est
dit
juive.
Qu'elle est juive, qu'elle a un petit enfant juif à cacher.
Et qu'elle veut retrouver son mari qui est à Alger. Voilà. Et donc, le fameux Mazoui lui dit, bah, écoutez, dans 8 jours, je vous fais déposer à Alger avec un petit avion. Alors ma mère, elle comprend pas. Sur le moment, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va falloir que je passe à la casserole ?» Enfin, elle est interpellée et il lui dit « Écoutez, c'est très simple. En 8 jours, on va vous apprendre à vous servir d'un petit poste émetteur et vous allez nous dire tout ce qui se passe avec les Américains en Algérie. » Donc, il transforme ma mère en espionne.
En espionne. Et là, que dit-elle?
Alors, sur le moment, elle comprend pas. Le soir, on rentre à la maison chez un oncle à nous qui nous hébergeait à Paris et elle dit « Je peux pas trahir la France. » Je peux pas trahir la France.
Je peux pas trahir ma famille, mes amis, ma nation.
J'aime mon mari, j'aime mon fils, qu'est-ce qu'on fait? Et évidemment, dans la nuit, on a décidé de partir. Dans la nuit, parce que le lendemain, elle n'a pas été au cours pour apprendre à se servir d'un poste émetteur.
Alors ça veut dire que dès le lendemain, le chef de la Gestapo a dû mettre plein d'indices à ses trousses.
Voilà,
et vous étiez recherché partout dans Paris.
Voilà, et partout, dans toute la France.
Mais je dis déjà dans Paris, parce qu'il fallait en sortir de Paris.
Voilà.
Et vous n'aviez pas du tout d'argent.
Non, on n'avait rien du tout. Et donc, on est tombé sur encore un ami qui nous a prêté un peu d'argent, un tout petit peu d'argent, pour faire des faux papiers. Et avec ces faux papiers, on est redescendu dans le Midi, en zone libre. Voilà. Et évidemment, à un moment donné, on traverse la ligne de démarcation en pleine nuit à Dijon, dans le train, je m'en rappellerai toute ma vie, à 2h du matin, les Allemands arrivent dans le compartiment et vérifient les papiers. Et évidemment, les papiers étaient tellement mal faits qu'ils s'aperçoivent que c'est pas nos vrais papiers, donc ils nous demandent de descendre du train pour partir là où sont partis la plupart des gens qui ont été arrêtés. Et ma mère, qui a un coup de génie, parce que c'était quand même
un personnage.
Oui, elle s'appelait Eugénie d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait du génie, a eu le culot d'enlever sa montre et de la donner au gars qui venait nous arrêter. Et pendant une seconde, le gars a pas compris, il était interpellé, et puis il a pris la montre, il l'a mis dans sa poche, et il nous a laissé remonter dans le train. Donc si ma mère donne pas sa montre, je suis pas là en train de parler devant ce micro en ce moment, voilà.
C'est hallucinant.
Et tout a été comme ça après, et après elle m'a caché dans les salles de cinéma.
Mais c'est ça, parce que bon, ça a été une véritable errance dans toutes les villes qu'il a fallu traverser, déjà dans la France occupée avant d'arriver en zone libre. Donc votre maman, elle a trouvé ce subterfuge magnifique de vous déposer dans des salles de cinéma, des après-midi entières, en demandant à l'ouvreuse, moyennant pourboire, de jeter un œil sur le bambin de 5-6 ans que vous étiez.
C'est ça.
Et vous avaliez des films en permanence.
Et ça a été la plus belle période de ma vie, parce que j'ai été au cinéma toute la journée. En plus, les cinémas étaient permanents, donc je revoyais trois fois le même film. Je me disais, tiens, ils vont peut-être changer la fin dans l'autre. Pendant les entractes, j'allais derrière l'écran, je pensais que j'allais voir les acteurs, j'étais très très naïf. Je savais pas qu'il y avait des metteurs en scène, et il y avait des dialoguistes et des scénaristes. Moi, je pensais que les acteurs inventaient leur texte.
Quel film vous avez le plus impressionné à l'époque, Claude Lelouch?
À l'époque, c'était les petites comédies françaises avec Rélis, avec Fernandel.
Oui.
Voilà, j'ai vu Fernandel, Noël, enfin tous ces acteurs. Et puis après, très vite, parce que sous l'occupation, on passait les films de Marcel Pagnol, de Sacha Guitry, donc très vite, j'ai vu des films d'adultes qui m'intéressaient et qui m'interpellaient.